Bentar Gabang, c'est comme plonger tête la première dans un rêve dystopique fiévreux. Imaginez cette montagne gigantesque de déchets surplombant une armée d'ouvriers qui fouillent et survivent grâce au rebut d'une civilisation. Absolument apocalyptique. L'échelle est colossale. On peut presque sentir le sable dans l'air. Se plaît-il ici ?
Eh bien, il pourrait en dire long, mais c'est comme ça qu'il vit maintenant. Il a dit que...
C'est tout un écosystème. Des communautés et des industries sont construites autour de ces interminables montagnes de déchets. C'est juste une humanité brute et brute se nourrissant de cet étrange sang vital que sont les déchets des autres. Mais ici, c'est bel et bien une réalité. Et croyez-le ou non, ces plastiques récupérés sont directement responsables de la construction du paysage urbain florissant de Jakarta. Et de la manière la plus dystopique possible, des villes entières semblent maintenant coincées dans une zone de guerre avec d'énormes explosions de fumée noire et tout recouvert de savon. Serre. Cela rend l'approvisionnement alimentaire de Jakarta toxique. Parfois de manière inattendue et involontaire, mais parfois de manière totalement évitable. Pour terminer cet épisode, je vais m'asseoir pour déguster ce que j'appelle du tofu poubelle. Et franchement, le nom dit tout. C'est peut-être le plat le plus toxique d'Asie. Ce bateau a eu la gentillesse de me faire monter en haut de la montagne. Sinon, c'est une sacrée balade. Et encore une fois, je ne sais pas, c'est un peu symbolique de l'immensité de cette montagne. Au-dessus de moi, je vois une opération similaire, les grues, et derrière moi, les villages de fortune où vivent des gens qui survivent tant bien que mal sur ces montagnes en essayant de se faufiler. Merci pour la balade. Ces types sont des ramasseurs qui font une pause.
Oui, oui. Puis-je prendre une photo ?
Tous les jours. Près de 600 camions poubelles déversent près de 8000 tonnes de déchets ici. Et quand on arrive, c'est un embouteillage de camions poubelles. Ils sont tous alignés, à peine en mouvement. Alors qu'on arrive au sommet de cette montagne de déchets, on suit cette file géante de camions. On marche à leur côté. Et d'un seul coup, on se croirait dans un autre monde. Des falaises de détritus s'élèvent de chaque côté de la route. Les machines ronronnent et klaxonnent sans arrêt, et chaque surface, chaque couleur, est enveloppée d'une couche de boue noire. C'est là que la plupart des ramasseurs opèrent. Encore une fois, on dirait qu'ils sont à la recherche de tout ce qui peut leur rapporter de l'argent. Et là, c'est l'une des scènes les plus post-apocalyptiques que j'ai jamais vues. Les ramasseurs sont partout. Des milliers d'entre eux envahissent le site de dépôt. Ils avancent vite, armés de crochets métalliques aiguisés et d'énormes paniers tressés sur le dos. Et ils extraient tout ce qui a de la valeur rapidement avant que le chargement suivant ne l'enterre. Et puis ça arrive. Je marche dans ce qui ressemble à une flaque d'eau. Et soudain, je me retrouve à genoux dans la boue.
C'est pas joli, les gars, je vous le dis. Je sens vraiment mauvais en ce moment. C'était comme, vous voyez, c'est raide jusqu'à la taille. C'est plutôt dangereux ici, je ne vais pas mentir. Donc, vous voyez comme ils ont mis des planches et si vous ne savez pas où mettre les pieds, vous pouvez y aller directement, c'est très raide, comme moi. Bon, il a dit que je devais me laver, sinon je vais avoir des démangeaisons. Il y a tellement de déchets toxiques dans ce liquide. Enfin, je n'en doute pas. Merci. Bon, c'est pas joli.
Construire une montagne d'ordures, c'est plus que simplement jeter des déchets et partir. Des routes doivent être creusées dans ces pentes, guidant les camions de plus en plus haut. Et à la décharge, le cycle commence. Les camions déchargent et les ramasseurs affluent, fouillant dans les déchets frais. Chacun de ces sites compte des centaines et des centaines de CCC charognards qui travaillent sans relâche. Je sais que je reviens sans cesse à ce mot « post-apocalyptique ». Mais honnêtement, cet endroit, c'est surréaliste. Par-dessus tout, les excavatrices se déplacent à un rythme mécanique, modelant le terrain mouvant pour lui donner une sorte d'ordre. Elles doivent travailler à l'unisson, transportant les déchets fraîchement déversés jusqu'au sommet le plus proche de la montagne. Alors, je pense que quand vous portez ces t-shirts Adidas, vous avez déjà vu ces produits en paix recyclés. Honnêtement, je ne serais pas surpris qu'une grande partie de ces déchets proviennent de cette même décharge. Ils fonctionnent ensemble comme une sorte de tapis roulant. Et c'est un désordre, mais un désordre structuré. Cette danse étrangement hypnotique de l'industrie et de la survie. Mais il reste une dernière étape. Le travail n'est pas terminé tant que le sommet n'est pas complètement aplati pour laisser place au niveau suivant. Et si je veux comprendre cet endroit, il n'y a qu'une chose à faire. Mon objectif est de grimper au sommet. Mais d'abord, il est temps de grignoter. Dispersés dans les montagnes, on trouve des cafés improvisés. Ces petits endroits insolites servent à manger et à boire aux milliers de travailleurs qui vivent ici. Et comme il s'agit ostensiblement d'un restaurant, il est temps de manger un morceau avant le client. Vous savez, je voyage constamment dans des endroits vraiment louches ces derniers temps et je gère mon argent. C'est un vrai problème. Frais de distributeur, taux de change élevé, ces distributeurs de forêt super douteux, lecteurs de cartes, tout ce que vous voulez. Et c'est pourquoi j'adore Revolut. Revolut, cette super application financière tout en un qui simplifie les dépenses internationales. Change de devise, ins, il propose même des entrées à prix réduit pour les salons d'aéroport. Et tout est centralisé. Il compte plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est super rapide à installer. En plus, vous recevez 40 dollars pour votre premier achat en ligne. C'est simple. Je suis toujours en train de changer de pays. Et avec Revolut, je peux détenir et échanger plus de 30 devises différentes à des taux avantageux et avec des frais vraiment bas. Si j'ai besoin d'argent liquide, les retraits aux distributeurs sont gratuits, dans la limite des forfaits. Fini les arnaques aux bureaux de change douteux ou aux distributeurs automatiques pour touristes. Ils proposent une carte de voiture en métal, élégante, résistante et idéale pour les voyages. Mais le véritable atout, c'est la sécurité. Si je perds ma carte, je peux la bloquer instantanément dans l'application. Et pour les achats en ligne douteux, Revolut propose même des cartes virtuelles à usage unique, ce qui me permet de protéger mes données en toute sécurité. Enfin, les retards d'avion ne me posent plus aucun problème. Revolut me donne accès à des entrées lounge à prix réduit dans plus d'un millier d'aéroports, ce qui me permet de me détendre au lieu de me battre pour une place à l'embarquement. Si cela vous intéresse, découvrez Revolut en suivant le lien ci-dessous. Vous pouvez aussi scanner le code QR à l'écran, vous inscrire, effectuer votre premier achat et hop, 40 dollars en poche. Très bien, les gars. Apparemment, il y a de la nourriture qu'on peut prendre, et elle va la préparer avec, je ne sais pas, une sorte de sirop en poudre bizarre, un peu de glace. Le truc de prédilection ici, c'est que ça tient toute la journée, alors peut-être que ça me fera tenir le coup aussi. On
dirait que c'est le truc de prédilection là-haut, dans cette montagne. C'est, je dois l'admettre, plutôt bon. On dit que c'est un mélange de farine, d'œufs et d'oignons. C'est de la pâte à frire, c'est plein de calories. Franchement, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Ça ne sent pas très bon, mais rien n'a bougé ici. Et puis, j'avais les mains couvertes de déchets il y a quelques minutes à peine. J'ai envie de voir comment c'est pour ces gars-là. C'est leur mode de vie, comment ils s'en sortent. Et c'est le déjeuner de tout le monde ici, on dirait. Waouh, c'est délicieux. Comme une surcharge de sucre, évidemment. Je parie que c'est bourré de caféine, et je veux dire, des heures interminables ici. Ces gars-là commencent à 6 ou 7 heures du matin, dès que les camions arrivent. Et je pense qu'il faut juste survivre avec des calories grasses et de la caféine. C'est vraiment génial. Un endroit incroyable, je vous le dis. Je veux gravir cette montagne. Allons-y. Franchement, atteindre le sommet ne prend pas autant de temps qu'on pourrait le croire. Et là-haut, on voit la dernière étape en action, l'aplatissement et le compactage des déchets. Donc, c'est le sommet de ce pic particulier. On peut voir les bulldozers enfin déplacer les déchets ici. On a un cercle de ramasseurs qui s'attaquent rapidement aux déchets les plus frais. Et souvent, c'est tout en haut, sur ces sommets, et ils peuvent être les plus dangereux, car c'est évidemment là que le risque d'effondrement et d'explosion de méthane est le plus élevé.
À chaque sommet, là où la chaîne d'excavatrice s'arrête, un bulldozer prend le relais. Il attend comme d'énormes tas de déchets devant lui, puis le fait rouler, tassant tout en place. Honnêtement, quand ces choses passent, elles ne vous préviennent pas. Ça se met juste en mouvement et vous vous écartez, mais vous êtes un peu grillé. Ce type ne mentait pas avant, j'ai des démangeaisons de pieds. Et comme avec les pelleteuses, les ramasseurs ne sont jamais loin derrière, traquant chaque mouvement, guettant une dernière chance de récupérer quelque chose de précieux. Personne ne semble réagir à ma présence, vous savez, juste un type blanc débarque avec une caméra au sommet de cette montagne géante pleine de déchets, et tout le monde est plutôt cool. C'est juste un mardi comme les autres pour eux. Oh.
C'est l'un des orateurs, depuis.
Combien de temps fait-il ça?
Depuis 2019, il a dit.
2019.
2009.
Quel âge as-tu?
23.
23. Ouais.
Comment est la vie ici? La vie ici est plutôt facile pour lui. Pas besoin d'école, pas besoin de diplôme, pas besoin d'avoir un beau costume pour travailler. Alors, il travaille et gagne de l'argent.
Alors, tu aimes ça? Arrête. D'accord, d'accord, point.
Ouais, il a dit. D'accord.
Dans cette décharge, les éboueurs sont régulièrement confrontés à des dangers physiques extrêmes. Environ 600 camions poubelles livrent près de 8000 tonnes de déchets par jour, ce qui signifie que les bulldozers et les excavatrices déplacent constamment des montagnes de déchets, provoquant de fréquents accidents. Les éboueurs risquent d'être écrasés par des engins lourds ou ensevelis vivants sous des tas d'ordures qui s'effondrent. Est-ce qu'il se plaît ici?
Eh bien, il ne pouvait pas en dire beaucoup, mais c'est comme ça qu'il vit maintenant. Il a demandé.
Combien d'argent gagne-t-il par jour?
Oh, alors il a dit que par jour, il ne savait pas, mais par mois, il pourrait peut-être gagner 1 million.
Pour 1 million de roupies. Éviter les machines ne suffit pas. Ces charognards doivent s'occuper de déchets chargés de verre brisé, de clous rouillés, d'éclats de métal et de seringues usagées. Ils causent des blessures fréquentes, qui évoluent rapidement vers le tétanos, la cellulite et une septième potentiellement mortelle. Quel est le pire aspect de leur travail?
Il m'a dit qu'il tombait souvent malade et qu'il s'inquiétait pour son avenir. En fait...
La décharge est remplie de métaux lourds comme le plomb, le mercure et le cadmium, provenant de tous ces déchets électroniques, piles, plastiques, qui s'infiltrent dans ces mares de boue toxiques et se répandent partout dans la montagne. Cela forme des rivières qui longent les routes. J'ai eu le malheur de tomber dans l'une d'elles. Et laissez-moi vous dire que ça démange instantanément toute la journée. C'est une sorte de brûlure subtile et constante. Les charognards souffrent de problèmes de peau à cause de cela. Hampe, dermatite chronique, éruption cutanée, mycose, et puis il y a la qualité de l'air. La fumée toxique provenant de la combustion spontanée du méthane, que nous allons bientôt atteindre, et les contaminants en suspension dans l'air, tels que les spores de moisissure et les bactéries, emplissent l'air. Plus de 65% des travailleurs des décharges souffrent de toux persistantes, de sifflements et d'essoufflements. C'est un endroit où il est difficile de vivre. Nous nous enfonçons encore plus profondément, au-delà du tourbillon constant des sites de dépôt, à travers le dédale de bidonvilles qui s'accroche aux abords de cette immense décharge. Et plus on s'enfonce, plus l'ordre se raréfie. Bon, les gars. Donc, dans les faubourgs, les ruelles de la montagne d'ordures, c'est là que tout le monde vit ici. Beaucoup de ces ramasseurs viennent de provinces éloignées, mais ils ont des réseaux de maisons précaires où ils vont vivre. ils vont résider. Là où le site précédent avait une structure, des règles, un certain niveau de sécurité routière, et même de sûreté, cet endroit semble différent. Brut, incontrôlé. Le Far West des déchets. Alors, notre guide de ce côté de la montagne, pour être honnête, je ne pense pas qu'il soit vraiment équipé pour la collecte des déchets. C'est là que le risque est tout simplement impossible à ignorer. Les ramasseurs travaillent dans un état d'urgence constant, la tête baissée, scrutant les déchets à la recherche de quoi que ce soit de valeur. Mais la plus grande récompense s'accompagne du plus grand risque, rester dangereusement près des excavatrices et des bulldozers. De l'intérieur de la cabine de l'excavatrice, la visibilité est quasi nulle. Elle se déplace rapidement, oscillant d'un côté à l'autre à un rythme effréné, avec peu de temps pour réagir aux humains assis dans les nombreux angles morts. C'est bien plus comme de ce côté du canon.
Point. Enfin, ils m'ont hissé sur ce truc. Ce n'est probablement pas la chose la plus sûre, c'est la première fois que je monte sur une excavatrice et quelle aventure. Vous roulerez au bord de cette falaise. Vous pouvez sentir la montagne en contrebas bouger sous vos pieds lorsqu'il charge le godet. Là, je sens la pelleteuse se pencher en avant pour attraper le godet. Puis elle va le faire pivoter en quelques secondes. On n'a aucune visibilité. On pourrait facilement décapiter un de ces ramasseurs. Je ne sais pas comment il voit quoi que ce soit. Bon. Merci, mec. Merci de ne pas me tuer. Chaque fois que je viens dans ces endroits, mec, c'est comme un rappel, une révélation de ce qui compte vraiment, parce que c'est sûr que c'est l'argent qui rend heureux. Je te le dis. Ça fait combien de temps que tu vis ici, mec ? Un an.
Un an. Et pourquoi as-tu déménagé ici ? Oh, parce qu'il veut payer son école, l'école de ses enfants, mais il n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent.
Alors, ici, il y a plus d'argent. Il y a assez d'argent pour envoyer tes enfants à l'école.
Oh, dit-elle.
Alors, combien d'argent tu peux gagner ici ?
Par semaine, environ, il peut gagner 500 000 roupies.
Et la nourriture ? Je vois qu'il y a beaucoup de nourriture dans ce coin. Il la cuisine. Que se passe-t-il exactement ?
Oui. Elle a dit qu'elle choisirait ce qui est encore consommable et qu'elle préparerait le repas elle-même.
Quel est le plus dur pour elle dans la vie ici ?
Elle a dit que le plus dur, c'est l'environnement en lui-même, n'est-ce pas ? Elle ne veut pas vivre ici si elle le peut, mais elle n'a aucun autre moyen de gagner de l'argent pour payer ses skis et l'école de ses enfants. A-t-elle de l'espoir pour ses enfants et sa vie ici ? Elle espère sincèrement que ses enfants deviendront de meilleures personnes, pour qu'ils n'aient pas à vivre ici comme elle. Dur, non ? D'accord, merci beaucoup.
Et l'un des dangers les plus dramatiques de Bentabang, ce sont les explosions de méthane. Elles sont mortelles et bien réelles. D'énormes poches de méthane se forment sous terre, tandis que des montagnes de déchets organiques pourrissent sous la surface. Ils sont piégés par ces énormes couches de plastique. Et puis, pendant la saison sèche, ces poches de méthane s'enflamment, déclenchant des explosions massives, évidemment dangereuses en elles-mêmes, et provoquant des glissements de terrain catastrophiques. Ces glissements de terrain piègent les charognards, les ensevelis vivants sous des tonnes de déchets. Rien qu'en octobre de l'année dernière, un incendie au méthane a ravagé près d'un tiers de cette décharge, emplissant le ciel de Jakarta de fumée. Et me voilà au sommet de l'une des plus grandes montagnes de déchets au monde. Et je me suis demandé, jusqu'où s'étendent réellement les risques sanitaires toxiques de cette montagne à Jakarta ? Et deuxièmement, pourquoi diable tous ces charognards ramassent-ils ce plastique ? Que font-ils de tout cela? En Indonésie, la chaux est presque de l'or blanc. Et nulle part ailleurs, cela n'est plus évident que dans la métropole en plein essor de Jakarta. Avec plus de 10 millions d'habitants dans cette ville en plein essor et plus de 20 millions dans sa périphérie, la demande en matériaux de construction est fulgurante. Et c'est là qu'intervient l'industrie de la chaux. Elle utilise du calcaire brut, du carbonate de calcium, et le cuit dans des fours pour créer des matériaux essentiels à tout, du mortier au plâtre en passant par la fabrication de l'acier, et notamment ces blocs légers en AAC, qui constituent en quelque sorte l'épine dorsale d'une grande partie de la construction indonésienne. Et partout à Jakarta, les producteurs de chaux utilisent ces énormes fours discontinus à l'ancienne, où ils superposent simplement du calcaire et du combustible, l'allument et l'alimentent en continu pour qu'ils brûlent à une température incroyable pendant 2 jours d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fours gigantesques. Seuls 2 sont actuellement opérationnels, ceux-ci sont en train d'être nettoyés sous mes yeux. Et puis, un peu plus loin dans le district, il y a presque un village entier qui fonctionne exactement comme ça, brûlant ses déchets. Et le bois dont ils dépendent traditionnellement est tout sauf bon marché. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Il y a, bien sûr, une montagne apparemment infinie de déchets en plastique caoutchouté bon marché, et on peut les brûler. Les ordures affluent ici par camion entier et quand j'arrive, il y a déjà des familles qui fouillent des tas de lessives rejetées. Parce que, bon, pourquoi jeter quelque chose qui pourrait être parfaitement utilisable? Et c'est le cas. Et ces types ont apparemment une tonne de lessives usagées. Il y a quelque chose dans cet aspect métallique de ce plastique qui est tout simplement choquant. En trouvant ces dames, ces villageois ici fouillent tout ça pour trouver celles qui ne sont pas vides afin de pouvoir les réutiliser. Je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi le brûler? Ils entretiennent ces fours avec d'énormes paquets de plastique. Les ouvriers les empilent. Les poussent à l'aide de ces longues perches de bambou, et une fois que ça atteint la chaleur, tout s'enflamme. Chaque nouvelle charge envoie d'énormes nuages de fumée noire dans le ciel. Ça commence à devenir épais maintenant, oh mon Dieu! Ça devient un peu fou. Et après avoir brûlé pendant quelques jours, une fois que le tas de chaux s'effondre enfin dans le four, il est temps de tout sortir. Bon, voilà, les gars, le produit final. Ils chargent tout ce qui vient de cette fosse, de ce four géant qui brûle depuis 2 jours, directement dans ce camion. Littéralement, un seau à la fois. C'est un travail lent et épuisant, mais c'est le processus. 2 gars chargent le camion, les 2 mineurs en dessous creusent. Ils portent d'énormes manchettes. Ils ont une seule lumière qui éclaire toute la fosse. La chaux est ensuite ensachée et transportée dans des camions qui la transporteront pour la transformer en blocs de béton cellulaire. Et à la fin de tout ce processus, des étendues entières de terres agricoles gisent sous cette épaisse couche toxique de poussière de four. On peut voir ici des champs de déchets, juste des bouts. C'est le fond des fours, inutilisables. On ne les transforme pas en briques, c'est juste que c'est probablement l'une des matières les plus toxiques au monde. Et il s'avère qu'une grande partie de l'alimentation de cette région en est affectée. Des études portant sur des échantillons d'œufs provenant d'exploitations agricoles situées près des zones de production de chaux ont révélé des concentrations de dioxines environ 3 à 4 fois supérieures au niveau maximal de sécurité défini par les recommandations sanitaires nationales. Et malheureusement, le poison plastique parvient encore à se retrouver dans l'alimentation des Indonésiens par toutes sortes d'autres moyens. Et cela m'amène à ce que j'appelle le « tofu poubelle ». C'est exactement ce que son nom indique. Je crois que ce matin, on fait, c'est un peu comme du tofu puant, sauf qu'on peut penser différemment. Il n'est pas fermenté comme le feraient les Taïwanais. C'est un peu plus complexe que ça. On remplit donc cette sorte de chaudière géante avec ce mélange de bois et de plastique. Le plastique est presque une sorte d'allume-feu. J'imagine que c'est aussi un combustible bon marché. Ça se remplit sous nos pieds, là-haut, pendant que le feu cuit, et il chauffe à vue d'œil avec tous nos déchets. On a commencé à décharger ces graines de soja qui ont trempé toute la nuit. Elles passent ensuite dans un broyeur géant et sont transformées en lait. Elles sont ensuite transférées dans une énorme chaudière alimentée par des déchets, où elles vont bouillir pendant une bonne vingtaine de minutes. C'est fou. Rien que cette énorme quantité de vapeur qui passe par ces deux tubes. Et ce grondement est assez inquiétant. J'ai un peu peur, debout à côté de ce truc, qu'il explose ou quelque chose comme ça. Une fois l'énorme cuve de lait de soja bouillie cuite, on la verse dans une sorte d'étamine géante, une sorte de latte de soja géant préparée à partir de cet énorme tas de déchets. Ensuite, deux ouvriers saisissent chaque côté et balancent lentement le tout d'avant en arrière. Ce mouvement de va-et-vient chasse l'eau à travers l'étamine, laissant le cahier plus solide. J'adore toujours cette méthode utilisant la force centrifuge. C'est vrai ? Je ne suis pas un scientifique. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu l'élan qui fait sortir le lait. Un vrai génie. Mais c'est ce qui reste dans la cuve qu'on cherche. C'est ça le vrai défi. On écume la couche supérieure de mousse, on enlève un peu d'eau, et on commence à transférer le tofu dans les presses pour le façonner en bloc. On le plie soigneusement, puis on répète le processus encore et encore. Et à la fin, on obtient cette pile brûlante et imposante, avec de l'eau qui fume et jaillit de tous les côtés. On est complètement à plat. Et l'eau jaillit à flot. Je suis toujours étonné de voir combien d'eau il reste dans ce tofu. Au moment où on pense qu'il n'y en a plus, c'est presse, c'est râtelier. Oui. C'est un travail d'eau. Oh, c'est génial! Une fois bien installé dans le moule, le tofu est plongé dans ses bains d'eau froide pour le raffermir. Il flotte pendant, je ne sais pas, 10, 20 secondes, pendant qu'il avance. On peut donc le passer d'un plateau à l'autre. Il ne colle pas. On le découpe ensuite selon un gabarit prédéfini, de la taille idéale pour un bloc de marché. Vous pensez qu'il est fan de Luka Donovic maintenant ? Je parie qu'il est ravi. Et puis il faut le colorer. On commence donc à écraser Cameron dans ce grand mortier épilon. La pulpe acidulée va devenir l'ingrédient clé qui donnera à ce tofu sa couleur jaune. On se prépare donc pour l'étape finale, qui consiste à allumer ce chaudron géant avec, vous l'aurez deviné, une quantité impressionnante de déchets plastiques. Et on ajoute beaucoup de tamarin. Chaque bloc de tofu reçoit sa part de purée acidulée avant d'être plongé dans la marmite pour mijoter. Et après quelques minutes, il ressort avec cette jolie finition jaune dorée.
Malgré tout ce que j'ai vu, ce genre de travail est assez impressionnant. Ces gars-là font des choses minutieuses et, même si c'est un peu compliqué, c'est vraiment beau. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi cette deuxième technique mystérieuse. Du jamais vu. Chaque moule est plié séparément. Ils enveloppent chaque portion de tofu dans une étamine, puis l'enroulent à la main à la vitesse de l'éclair. Et des équipes de ces gars-là s'en chargent. Intéressant. Mais revenons au jaune. Il est temps de manger du tofu de pacotille. Écoutez, tout le monde ici m'a dit et informé, croyez-moi, que ce n'est pas la façon authentique de manger du tofu en Indonésie. On ne le mange pas cru comme ça, il est généralement cuit, il est généralement transformé, d'une autre manière, sous une autre forme. Alors, Indonésien, pardonnez-moi de manger du tofu de pacotille de manière incorrecte, mais ce que je recherche, c'est le goût le plus pur. Je veux vraiment essayer d'en saisir l'essence. Donc, je ne veux pas trop mélanger les saveurs, si vous me comprenez. Quand on sent ce truc, ne vous méprenez pas, il y a un arrière-goût de plastique omniprésent, mais ce petit aliment en lui-même, d'après ce que je peux en dire, ne sent pas si mauvais. Donc, au moins du côté aromatique, je dirais que c'est beaucoup plus facile à manger que certains tofu taïwanais fermentés que j'ai pu goûter récemment. Évidemment, l'aspect mental est à l'opposé. Et l'aspect santé, je ne suis pas sûr non plus. Bref, assez de bavardage, allons-y. Voilà. C'est le goût onctueux du tofu. Sur les côtés, l'extérieur est un peu recouvert. Il y a un peu de texture. Ce cœur fondant n'a, je vous le dis, aucun autre arôme que ça. Et jusqu'ici, c'est du tofu plutôt bon. Je ne vais pas mentir, une dernière bouchée, les gars. Vous savez quoi? Je ne sens même pas vraiment ce goût de curcuma. Je ressens juste ce goût onctueux, beurré, de tofu. Je ne sais pas. Malgré mes appréhensions, mes interrogations sur les bienfaits de ce plat à long terme et toute cette histoire de déchets, je pense qu'au quotidien, il y a probablement une raison pour laquelle on en mange. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment le savoir. Ce n'est pas comme du pug pug. Ce n'est pas comme du tofu puant. Le tofu, ici, est bon. C'est juste l'autre problème. Bon, c'est bien. Vous savez, la nourriture et la culture sont toujours liées, mais honnêtement, ce qui m'excite vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot pour décrire ça que complètement et totalement extraordinaire. Cet endroit est trippant.